Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public, cher public, au Théâtre de l'Alliance Française pour Un masque et la plume, consacré à nouveau à l'actualité post-cannoise du cinéma avec Sophie Avon de Sud-Ouest, Nicolas Chalère de l'Obs, Pierrot-Pierre Murat de Télérama.fr et Jean-Marc Lalanne des Incorruptibles qui ne s'est toujours pas remis du palmarès du Festival de Cannes et surtout de la Palme d'Or. Il sera question ce soir de films qui étaient à Cannes, Top Gun, des nouveaux films de Arnaud Desplechin, Michel Hazanavicius, David Cronenberg, Serge Bozon, sans oublier une compétition officielle, mais qui n'est pas celle du Festival de Cannes. Dans le courrier de la semaine, contrairement à nous, Zelda n'a pas été sensible aux Passagers de la nuit de Michael Hirst. Les dialogues plats et les scènes superflues ne débouchent sur rien. Même sentiment de Claire Ponty. Quelle mouche vous a donc floué pour que vos critiques ne se rendent pas compte de l'escroquerie de ce film? Tout est effleuré, superficiel, ça se veut éthéré et poétique, c'est empesé et prétentieux. On tombe dans tout ce que ne doit pas être le cinéma. Que de longueur et de répétition, ajoute Pierre Cusor, on est parfois plus proche des Passagers de l'ennui. Et c'est dommage. Pour Daniel Brévin, c'est de l'onanisme sur pellicule. À périr d'ennui, pour Gisèle Mornac, ces Passagers sont aussi niaiseux sur le fond que dans la forme. On dit que le cinéma français va mal, ce n'est pas en multipliant des purges pareilles qu'il s'en sortira. Un de vos critiques, nous écrit Olivier Boudin, a dit « Il ne se passe rien dans ce film, mais c'est beau ». Je ne sais pas si c'est l'un d'entre vous qui a dit ça.
Je ne sais plus, mais j'aurais pu le dire.
Et Olivier Boudin nous dit « Je regarde mon aquarium et cela me donne une idée ». Non, ils sont durs parce que c'est vrai qu'on l'avait beaucoup aimé, beaucoup défendu à cette tribune.
Injuste même.
Et voilà, c'est la vie, hein, Sophie.
Oui, la vie est injuste.
Et Sophie qui a toujours, je le précise, son bras cassé. Donc, si vous voulez lui envoyer des petits signes qu'elle mettra sur son plâtre. En revanche, Arnaud Lambolès de Nancy remercie le masque pour son unanimité concernant Sentinelle Sud de Mathieu Géraud qui figure déjà, nous dit cet auditeur, dans son palmarès des films français de l'année 2022. C'est l'antithèse de Platoon. Oliver Stone ouvre une guerre dans la guerre sans réconciliation. À l'inverse, Mathieu Géraud ouvre une fraternité dans la guerre. Même dans les pires moments, jamais cette fraternité ne sera prise en défaut. Penda Traoré recommande également Sentinelle Sud, film très prometteur avec Denis Lavant, mais reproche, je parle de Penda Traoré, reproche à Éric Neuhoff ses propos dénigrants. Beau travail de Claire Denis. Ce film est un chef-d'œuvre, nous écrit cette auditrice, où Denis Lavant joue un ex-adjudant de la Légion étrangère, une des plus belles scènes de Sentinelle Sud, où Neil Schneider repasse son uniforme, fait écho aux mêmes scènes iconiques dans le film de Claire Denis. Pourquoi tu lui fronces les sourcils, Pierre ?
Parce que Claire Denis n'est peut-être pas forcément une cinéaste iconique.
Non, mais je vois que tu n'as pas non plus écouté
grande
le masque.
Cinéaste, en tout cas.
Tu n'as pas écouté le masque de dimanche dernier. Le film n'a pas été, son nouveau film n'a pas été très apprécié par vos consoeurs et confrères. Enfin, un message doux amer de Jean-Luc Clairet de Besançon. Je suis allé pour la première fois cette année au Festival de Cannes et j'ai été sidéré comme vous, cher Jérôme Garcin, par l'abîme entre la folie cinéma qui y règne au mètre carré et le monacal des salles byzantines où semaine après semaine nous sommes 4, 7, 20 au mieux et même seuls. Et ce, bien avant l'arrivée de certains virus. Et j'ai reçu d'autres mails dans ce sens à tes souhaits, Sophie. Voilà, c'est vrai que le festival va bien. Je parle de la production de films et de son exposition. La salle, je me répète, je l'ai déjà dit dimanche dernier, mais la salle souffre terriblement et de plus en plus. Voilà, et on commence avec un film qui cartonne. Les chiffres de Top Gun depuis deux semaines sont époustouflants, qui était présenté à Cannes hors compétition, mais, avec La Patrouille de France, le film de Joseph Kosinski, qui est la suite du Top Gun de Tony Scott, sorti en 86, avec l'immarcessible Tom Cruise, qui reprend du service et s'envoie toujours en l'air. Le meilleur des pilotes de chasse est chargé ici de former en quelques semaines 4 jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission très spéciale, bombarder en territoire ennemi. Mais vous avez remarqué un territoire qui n'est jamais nommé.
Oui, hein, c'est ce que j'allais dire.
C'est m'intrigue hein, quand même. donc, bombarder une usine d'uranium enrichi. Parmi les jeunes élèves, il y a le fils de son coéquipier qui était mort en vol, en mission. Ça dure 2h10 et avec ce film, Tom Cruise, selon Nicolas Chalère, écrit un nouveau chapitre de sa légende. donc tu vas nous expliquer pourquoi. Les scènes d'aviation sont assez époustouflantes, le reste est quand même très emmerdant, non ?
Alors, attention, faut nuancer. Il y a un peu d'ironie donc, quand j'écris un nouveau chapitre.
Ah non, moi je te dis toujours au premier degré. Il écrit un nouveau chapitre de sa légende.
Je suis d'accord avec toi, premier degré, vraiment.
Ce qui est intéressant chez Tom Cruise, c'est que quel que soit le film, il écrit de toute manière un chapitre de sa légende, c'est-à-dire que Tom Cruise dit à travers ses films tout ce qu'il ne dira jamais en interview, et sa masterclass à Cannes a été un exemple de ça, c'est-à-dire que c'était plus d'une heure de vide intersidéral, c'est-à-dire qu'avec des éléments de langage qu'il répétait, et c'était voilà, enfin, on va revenir au film, mais à travers ses films, je trouve que Tom Cruise dit beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est que Top Gun, à l'époque déjà, moi, le premier Top Gun, j'ai pas du tout la nostalgie de ce film que j'ai vu un peu tardivement et que je considère vraiment comme un navet, mais qui est vraiment agréable à la revoyure par sa lecture vraiment cryptogée, c'est-à-dire que c'est même plus crypto, c'est-à-dire que c'est le seul intérêt du film, c'est de le revoir à l'aune de cette lecture-là.
Tu veux dire, si on enlève le crypto-gay, il n'y a rien.
Si tu enlèves le crypto-gay, c'est un spot de pub pour l'armée américaine et c'est vraiment, vraiment très mauvais. Et là, effectivement, ils ont vraiment amélioré le produit, on va dire. C'est-à-dire que déjà, ils font des scènes d'aviation qui, dans le premier, étaient vraiment minables. Là, c'est ce qui est formidable dans le film. C'est le côté Mission Impossible du film. C'est-à-dire que Tom Cruise a un nouvel homme de confiance, qui est Christopher McQuarrie, qui a réalisé les derniers Missions Impossibles. Et à chaque fois, il travaille comme ça de très près pendant une longue période avec des auteurs et réalisateurs, producteurs. Et là, McQuarrie a pris le film en main et il a vraiment fait des scènes d'action et de la partie aviation une sorte de mission impossible. Donc il y a vraiment une mission contre un état voyou. Ça c'est assez drôle justement, pour pas le nommer. Et ces scènes d'aviation sont dingues.
On allait savoir de quel état il s'agissait, mais en fait,
jamais.
Mais quelle région même.
C'est là où il y a la neutralité du film est assez folle. Et à côté de ça, il y a toute la partie nostalgie et toute la partie travaillons la légende de Tom Cruise et amusons-nous avec la légende de Tom Cruise. Il y a presque un côté Clint Eastwood dans le film justement de Tom Cruise qui revient, qui reprend du service et qui en même temps a vieilli, a plus l'âge. On n'arrête pas de faire remarquer ça. Après, cette partie-là, c'est pas la plus inspirée, parce qu'il y a un vrai côté... Moi, ça m'avait pensé à Sol des Anges ont des ailes, un film de Howard Hawks, qui est un chef-d'œuvre, mais une version roman photo du film. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée du courage, de la bravoure, de la camaraderie contre l'ordre établi, qui fait plaisir à voir.
Tu l'as bien défendu.
Et en même temps, avec des personnages de roman photo. C'est-à-dire que c'est une version assez puérile du film de Howard Hawks.
On est d'accord. Pierrot.
Ben non, alors justement, ce qui est vraiment drôle, c'est l'imprécision. Parce que donc, dans un état voyou, ça ressemble un peu à ce que Racine disait, tu sais, quand il faisait ses pièces dans un pays éloigné. C'est à peu près ça, dans un pays éloigné, lequel, on ne sait pas. Et d'autre part, ce qui m'a frappé par rapport à l'épisode 1, c'est totalement asexué. Et ça reprend absolument l'air du temps, en quelque sorte. Parce que, en fait, crypto-gay, c'est Tarantino. Quentin Tarantino, qui dans un film où il faisait l'acteur, Sleep With Me, démontait absolument génialement Top Gun, et il disait, voilà, c'est un film où il y a deux clans, il y a le clan Val Kilmer et tous les pilotes qui disent, viens Maverick, viens dans notre clan gay, ça sera beaucoup mieux, tu verras, tu t'amuseras beaucoup, et puis il y avait Kelly McGillis de l'autre côté qui disait, non, reste dans le rang, reste straight, et tout ira bien. Et il notait un truc très marrant dans l'épisode 1, qui est en effet un navet, c'est que, à un moment donné, il ne couchait pas avec l'héroïne, et c'est quand elle se déguisait en mec, c'est-à-dire avec une casquette et un pouceau de cuir, qu'il passait au lit.
Et donc, il regarde d'ailleurs.
C'est quand même bizarre les critiques.
Et c'était très intéressant comme vision de Top Gun, parce qu'il fallait bien se raccrocher à quelque chose tellement le film était mauvais. Bon, alors, et là, en plus, il ne se passe rien.
Non, on est d'accord.
Mais rien, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas... Il y a une scène crypto-gay sur la plage quand il joue au machin, mais c'est absolument hallucinant. Quoi. Et alors, il ne se passe rien non plus entre les personnages. C'est-à-dire que le sexe n'existe pas. Il y a uniquement les vroom vroom, les gros avions qui foncent, l'état voyou qu'ils ont, et puis là, 2h10, c'est insupportable. Alors, je sais qu'il va me dire que ça a fait 3 millions d'entrées comme tu m'as dit, pour le Docteur Strange. Eh ben oui, alors les salles sont pleines et ils vont pas voir les bons films. On n'y peut rien, voilà.
Sophie.
Moi, je suis pas du tout d'accord. J'y allais vraiment. Moi, j'ai pas vu le Top Gun 1, donc voilà.
Surtout, déjà. Le rattrape pas. Hein.
Et j'ai aucune intention de me rattraper et j'ai pas besoin d'avoir vu le Top Gun 1 pour être extrêmement touchée par ce que ce film dit. Moi, je le trouve bouleversant. Et
bouleversant.
Efficace. Oui, tout à fait.
Bouleversant.
Moi, pourquoi ? Ce que dit ce film sur le temps qui passe et sur, et encore une fois, pas besoin de voir le 1 pour voir que Tom Cruise est un vieux. Il est bien conservé, mais il est vieux.
Il est très très bien conservé.
Oui, mais il est vieux. Et il est regardé, oui, mais tu oublies qu'il est regardé par les jeunes gens. Et dans le regard des jeunes gens, il est vieux. Et c'est un film sur la cruauté du regard des jeunes gens et de cette nouvelle génération qui le voit comme un vieux, même s'il est bien conservé, même s'il est beau gosse. Donc ça, c'est très important. C'est un film sur la cruauté, sur la, du temps qui passe, de la jeunesse, sur le triomphe de la jeunesse qui ne se rend pas compte de son regard justement sur les vieux. Alors bien sûr que le vieux va en remontrer aux jeunes. Mais n'empêche que c'est très douloureux. Et pour la première fois, j'ai eu le sentiment que je voyais que la fragilité que l'âge fait à cet homme, à cet acteur, et qu'il le jouait en même temps qu'il le vivait. Alors, il avait déjà un petit peu composé avec ça dans Mission Impossible, justement, où il jouait un petit, il se mettait un peu en boîte avec, bon, vous voyez, j'ai pas tout à fait l'âge de l'héroïsme que je joue, mais enfin, bon, je le fais quand même. Et il... Là, c'est beaucoup plus douloureux que ça, et je trouve qu'on lui offre un rôle en or. D'ailleurs, Oblivion était bien déjà, hein, enfin, bon, c'est encore autre chose, mais vraiment, je trouve que pour la première fois, il joue avec la fragilité de l'âge. Et c'est très beau.
C'est le côté Clint Eastwood.
Alors, Jean-Marc, j'étais lui aussi.
Moi, je trouve ça magnifique aussi. Très, très beau, très émouvant.
C'est un film bouleversant,
je suis pas,
magnifique.
Je suis d'accord sur le jugement de Sophie, mais pas tout à fait sur ce que tu dis, parce que ce qui est très, très beau, c'est que quand même, malgré tout, c'est un film sur le temps qui passe, mais sur un corps où le temps semble ne pas passer.
C'est Proust.
Et malgré tout, le miracle de Tom Cruise, c'est que son corps, on a le sentiment qu'il ne vieillit pas, qu'il est, comme tu le disais, immarcessible, mais que d'une certaine façon, c'est peut-être ça qui est le plus cruel. C'est-à-dire qu'il a réussi son fantasme qui était de ressembler à un immortel, mais ce faisant, il se coupe absolument des autres et le film ne cesse de raconter ça. Cette espèce de solitude absolue qui a à s'être constitué comme une idole, comme un demi-dieu. C'est un peu un film sur le poids d'être Tom Cruise. Et là-dessus, rien n'a d'importance, c'est-à-dire qu'on se fout de l'histoire, on se fout quasiment de
oui,
tout.
Ça, c'est vrai.
Mais c'est un film qui réfléchit une des mythologies les plus fortes du cinéma hollywoodien de ces 40 dernières années. Ce qu'a accompli Tom Cruise est quand même assez unique en termes de règne sur le cinéma, mais aussi il a fait un nombre de très très bons films extrêmement impressionnants. Et c'est vraiment un film sur le mythe Tom Cruise qui est complètement passionnant et très très émouvant.
Quels sont les bons films de Tom Cruise ?
Ah, mais il y en a plein.
Oblivion.
Il y en a plein. La guerre des mondes.
Paul Thomas Anderson, c'est le seul mauvais.
C'est le seul très bon.
Non, mais ce qu'il en fait est passionnant dans Magnolia. Il raconte des choses.
Magnolia, c'est passionnant.
Il y en a énormément de films.
Non, il a fait très bon.
Non, mais c'est le Clint Eastwood pour commencer, l'Olivier.
Tous les missions impossibles.
Oui.
C'est le Clint Eastwood et Multiplex.
C'est un beau film.
Les Spielberg sont magnifiques.
Bon, allez, on se calme, les enfants. Top Gun, Maverick. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film magnifique et bouleversant? Non. Non. Ben alors, c'est bien à peine que les salles soient pleines. Il a fait l'ouverture du Festival de Cannes. C'est coupé de Michel Hazanavicius. Le titre était Z comme Z, en référence, vous savez, à Zombie, évidemment, ou à Série Z. Mais il a été rebaptisé à la va-vite en raison de la terrible symbolique de la lettre Z de l'armée russe en Ukraine. Et c'est avec Robin Duris, survolté, il faut dire, Bérénice Bejo, Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, très mal en point, Jean-Pascal Zadi, très drôle dans ce rôle de musicien improbable, et avec beaucoup, beaucoup de faux sang. Le film dure 1h50, mais on doit d'abord passer par un préambule, vous le savez, d'une demi-heure. Une demi-heure à faire fuir, puisque c'est le tournage catastrophique d'un film de zombies niveau amateur, qui se déroule dans un bâtiment désaffecté et en un seul plan séquence, où les acteurs s'en foutent, les techniciens sont à la ramasse, et seul le réalisateur, incarné par Duris, semble vraiment y croire. Et c'est vrai que quand on l'a vu avant Cannes, n'est-ce pas, Nicolas, on se demandait vraiment comment une telle daube pouvait ouvrir le festival. Et puis la demi-heure passée, soudain, le film bascule. Et là, évidemment, nous sommes obligés, même Murat, de se taire. Je peux seulement dire que, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup ri. Et il faut quand même rappeler que l'original dont Hazanavicius s'est inspiré est Ne coupez pas de Shinichiro Ueda, qui est un film japonais de 2017,
et qui est disponible. Sophie.
Oui, c'est une comédie désopilante, mais qui se mérite. En effet, parce que, comme tu l'as dit, on est obligé d'en passer par cette sorte de drôle de film qui flotte, c'est le moins qu'on puisse dire, qui laisse complètement dubitatif. Et pendant une demi-heure, on se dit, on essaie de puiser en soi des ressources pour essayer de comprendre ce qui peut se passer.
Est-ce qui est arrivé bien, à un problème aussi.
Bien sûr. Et puis, on est récompensé au centuple parce qu'en effet, la fabrication du film, côté l'envers du film, est une révélation pleine de surprises et hilarante, vraiment hilarante. Effectivement, en tout cas, moi, j'ai beaucoup. Et finalement, c'est pas du tout un film de zombies. Ça se révèle être une comédie sur le travail
c'est
bien
plutôt
fait.
C'est un film sur le cinéma qu'un
c'est
film,
un film sur,
les zombies,
travail, hein. Sur le travail bien fait, sur l'artisanat du cinéma, sur le collectif, sur la famille aussi, et comment tout ça arrive à fonctionner. Et moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est que justement, Azalevichius, qui a toujours privilégié un cinéma plutôt populaire, qui se veut pas un télo, etc., qui va toujours vers des genres plutôt pas très prestigieux, etc., demande en même temps toujours à ses spectateurs une sorte d'exigence, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être exigeant, il faut être patient pour mériter ce film. Et moi, j'aime bien cette idée d'en passer par là pour arriver à quelque chose de vraiment très drôle. Romain Duris, qui court dans tous les sens, est hilarant. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que le film insiste assez sur le fait que c'est un plan séquence et il n'y a pas de coupure ? Est-ce que ça insiste assez sur le fait que pourquoi c'est comme ça ? C'est parce qu'on ne peut pas l'interrompre. Alors, il dit à un moment donné qu'il faut le faire d'une traite, que c'est en direct et tout, mais j'ai l'impression que
c'est le principe.
Quand on ne sait pas...
Oui, si tu enlèves le plan séquence de l'idée du film...
Quand on ne sait pas que c'est un plan séquence... Qu'est un plan séquence ? Tout le monde ne sait pas après tout ce qu'est un plan séquence.
Je pense qu'on le ressent au bout d'un moment.
Oui, je pense. Mais bon, c'était la seule question que je me posais. Mais là aussi, ça fait partie des exigences d'un cinéaste qui, par ailleurs, se tient toujours un peu à l'écart du cinéma intello, du cinéma d'auteur, qui aime travailler le genre, qui en même temps, vraiment est très, très fort, même s'il aime les bras cassés, même s'il aime. Finalement, c'est un éloge de la médiocrité, d'une certaine manière.
Et tu sais ce que ça veut dire, hein, Sophie.
C'est vraiment un éloge du moyen, quoi. Du moyen, mais qui réussit pour peu qu'il y croit, quoi.
Jean-Marc, Carla, les Arocs sont moins tendres, hein, pour couper.
Il y a quelque chose d'intellectuel, malgré tout, dans le film de Azalevicius. Tous ces films parlent du cinéma, de la représentation, de comment on fabrique une histoire. Il est vraiment obsédé par ça. C'est vraiment son sujet. Mais moi, ce qui me trouble, c'est qu'en faisant un cinéma aussi autoréflexif, il suscite aussi peu de réflexions et aussi peu d'idées. Au final, ces films soient aussi creux et disent aussi peu de choses intéressantes sur ce que c'est que la représentation, ces procédures. Et là, je trouve que ce que dit le film sur ce qu'est le cinéma, à savoir une entreprise familiale, et si on fait les films avec le cœur, c'est comme ça qu'ils seront, même s'ils sont pas bons, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de le faire avec le cœur. Je trouve que c'est une mièvrerie, mais absolument consternante. Et en plus, je trouve que le film est vraiment très peu regardant sur ses effets comiques. C'est-à-dire que c'est essentiellement des blagues scato vraiment extrêmement régressives.
Non,
répétitive. Ah bah si, il y en a vraiment beaucoup. Pour moi, j'étais vraiment à un degré de saturation sur ce registre très 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 fort. Et je trouve que le film n'est pas tellement plus drôle quand il essaie d'être drôle que quand il fait exprès de ne pas l'être. Et que c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que je ne vois pas un saut entre son début et sa fin.
Nicolas.
Ce qui est intéressant, c'est moi j'avais vu le film japonais et c'est vrai que la première demi-heure dans le film japonais, il y a le doute parce que c'est un film vraiment amateur, qui est un film étudiant qui a vraiment été tourné avec 3 francs et on se demande vraiment de qu'est-ce qu'on regarde quoi. Et c'est vrai que le Azanavicius, comme on sait que c'est un film d'Azanavicius, c'est un film fait dans des conditions professionnelles. Du coup, il n'y a pas ce décalage-là et c'est vrai que dans la première demi-heure, c'est assez douloureux. Après, moi, je trouve que quand même vraiment, il y a vraiment il célèbre ça, la joie collective de faire du cinéma. Et je pense qu'il y a chez lui, voilà, cette envie, ce que Jean-Marc n'a peut-être pas aimé, c'est qu'il y a une envie quand même toujours de rire, de comédie, enfin, il l'a dit clairement, et qu'il essaie de mettre un peu tous les genres de comédie.
On rit pas, Jean-Marc, voilà. Paris, non, mais sûr. Sophie et moi, on a ri.
Voilà, mais moi aussi, j'ai beaucoup ri. Et d'ailleurs, il a ajouté dans le film le personnage de Zadie, qui n'était pas dans l'original, qui pour moi est vraiment porteur de
bonne partie du comédie.
Qui est génial, parce qu'il fait la musique en direct, et donc, c'est un peu un reflet de nous-mêmes spectateurs qui ne comprenons pas ce qui se passe et qui essaie de rattraper les pots cassés et il y a toujours eu chez Azalevicius comme ça une envie à la fois méta comme on dit d'avoir toujours une distance et en même temps d'être à fond avec le spectateur et d'en donner au spectateur. Donc ça crée des films un peu étranges, un peu atypiques et en même temps moi je trouve que dans celui-là il réussit vraiment son but premier qui est vraiment de nous faire rire et moi pendant la deuxième heure on rit franchement quoi.
Et Pierre, est-ce que tu as ri ?
Pas beaucoup. Désolé, pas beaucoup. Non mais la première demi-heure outre Techniquement, c'est formidable. C'est vrai, c'est un plan séquence qui est médiocre parce que l'équipe technique est médiocre, ne sait pas faire face aux difficultés, improvise, etc. Mais il est, bon, c'est un grand technicien. Moi, j'ai un problème avec Hazanavicius, mais c'est lui qui a raison, c'est lui l'auteur. Moi, je ne suis rien. Mais c'est que, il fait uniquement des hommages, des parodies, des, bon, c'est très bien. C'est son droit le plus strict. Mais quand il fait un film original, un peu original comme Le Redoutable, je trouve pas ça terrible. Et tout le reste, c'est OSS 117, le parodie du cinéma muet, ce qui le fait très bien. Pourquoi pas,
hein.
Mais c'est des limites. C'est un cinéaste qui n'a pas d'univers propre, en quelque
c'est
sorte.
C'est un univers en soi.
Mais oui, mais
le
oui,
pastiche,
non,
la recréation.
Mais oui, mais justement, mais c'est pas un créateur. C'est un très bon faiseur. Mais c'est très bien. Il en faut et c'est génial. Oui. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Mon problème avec OSS 117, par exemple, c'est que
Mais là, on parle de coupé, là.
Oui, mais je ris plus. Je ris plus à Banco à Bangkok, à OSS 117, où Robert Hossein en turbané joue les méchants.
Oh non.
Qu'aujourd'hui, là, ça me fait plus rire. Chacun a son humour. Moi, ça me fait pas beaucoup rire. Donc, celui-là, la première demi-heure est cata, après on rit plus, et c'est très brillant, voilà, c'est très brillant pensé, voilà.
Pour vous montrer à quel point d'ailleurs les auditeurs sont partagés, j'ai reçu plein de mails, genre Jérôme Verdier de Saumur, j'ai adoré couper du vrai cinéma divertissant, imaginatif, sans numérique, avec des acteurs très en forme, et puis Claude Barrault, qui lui est scandalisé, ce film n'est pas le remake, mais le plagiat du film japonais, ne coupez pas, comment un réalisateur peut-il autant siphonner le film d'un autre? Et qui dit aux auditeurs du masque, courez acheter le DVD de Ne coupez pas pour comprendre mes propos. Alors, coupez, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film ici? Oui, le micro vient vers vous. Bonsoir, madame.
Bonsoir. Je voulais juste savoir si on pouvait arriver dans la salle après 20 ou 30 minutes.
Pour avoir juste la. Oui, mais alors, je vais vous dire une chose. Là, je vous parle puisque moi j'ai ri comme d'autres. Si on manque cette demi-heure d'ennui est très déstabilisante, il faut dire la vérité. Pas d'ennui, c'est plutôt déstabilisante.
Non, elle n'est pas ennuyeuse.
On ne comprend pas du tout.
Oui. Elle est étrange.
La seconde partie.
Non, vous devez tout voir.
Il faut la voir.
Il faut
tout voir.
Vous pouvez pas couper à ça.
Merci pour votre question. Oui, une réaction tout en haut du théâtre de l'Alliance française. Le micro vient vers vous. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir. Vous commencez l'émission, monsieur Garcin, en disant que les salles sont vides. Mais ce film, il va attirer les spectateurs. Il est formidable pour ça. En plus, il va attirer des familles. Tout le monde peut aller voir ce film. Donc, je comprends pas trop les critiques, justement. D'un côté, on se plaint que les salles sont vides. Et de l'autre côté, on nous apporte des films qui sont de grande qualité. Parce que pour moi, c'est un film de grande qualité, qui est bien écrit, qui est bien joué. Donc, il n'y a pas de raison de le dénigrer.
Merci en tout cas pour votre intervention. Cela dit, pour tout vous dire, il est sorti il y a 15 jours, puisqu'il était le jour même de l'ouverture du Festival de Cannes. Et il n'a pas trouvé le public, en tout cas, que, en règle générale, oui, les films d'Hazanavicius trouvent. Donc là, on en parle 15 jours après, mais c'est vrai qu'il a manqué cette osmose entre le grand public et le film coupé. En sélection, on va aller un peu plus vite, et compétition à Cannes, mais reparti bredouille, le nouveau film de David Cronenberg, 79 ans, Les Crimes du Futur, qui était déjà le titre de son deuxième film, on l'a pas toujours rappelé, en 1970, que je n'ai pas revu pour l'occasion. Donc un film d'anticipation crépusculaire qui se situe dans un monde où les hommes vivent sans leur enveloppe corporelle et peuvent se métamorphoser. L'artiste performeur Saul Tenser, qui est incarné par Viggo Mortensen, en a fait un spectacle, chirurgical. Voilà, chirurgical, avec sa partenaire Caprice, qui est jouée par Léa Seydoux. Pas de film sans Léa Seydoux, vous le savez. Il dévoile en un temps réel et met en scène l'ablation et la transformation de ses propres organes. Une pratique que suivent de très près Kristen Stewart, qui est une enquêtrice du bureau du registre national des organes, parce qu'il y a un bureau du registre national des organes, et un groupe mystérieux qui compte bien révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine, avec en prime, et dès le début, il faut dire, un infanticide. Je le dis pour ceux qui hésiteraient, comme dirait monsieur, à entrer en salle. Voilà, c'est tout à fait au début. Pierre ?
Je vais être court, parce que pour pas... laisser les autres s'exprimer. Moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, mais c'est un film, alors là, vraiment difficile, quoi. Voilà, mais c'est les premiers Cronenberg. Il revient à ces films comme Rage, comme Chromosome 3, mais avec l'expérience qu'il a, et c'est un film où, en effet, qui est pratiquement testamentaire. Ça s'appelle Les Crimes du Futur, ça pourrait s'appeler Les Crimes du Présent, parce que c'est exactement, le héros est quand même un showman qui construit, fabrique des cancers, des organes, etc., et se les fait opérer dans une espèce de show apocalyptique. Il y a un père qui veut exposer son fils, enfin, pour un show absolument. C'est notre monde qui semble l'effrayer extraordinairement, et je trouve que si ce n'est en effet la pénibilité, si j'ose dire, du film, qui est splendide par ailleurs, au point de vue photo, musique, tout ça, mais
un peu figé quand même, un peu solennel.
Oui, mais contrairement à tant d'autres, pour moi en tout cas, il ne me donne pas des leçons, c'est-à-dire qu'il fait un constat, il nous dit « voilà ce que je constate, pratiquement ce que j'ai fait, ce que j'ai peint, le corps, il l'a peint, détruit, voilà, toute sa vie, voilà où on en est », mais il ne fait pas le mauvais prophète, il nous dit « voilà ce qui se passe ». Et je trouve ça vraiment un film d'auteur, pas facile, mais très 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 profond, pour moi c'est un film très profond.
Jean-Marc.
Oui, c'est absolument un film d'auteur, c'est peut-être même sa limite, même si moi je trouve le film très beau, mais on a par le moment le sentiment d'être un peu moins devant un film qu'à une exposition.
Absolument.
Où on traverserait le musée Cronenberg et on voit revenir toutes les figures, toutes les images, toutes les formes qu'on a aimées ailleurs et qui étaient extrêmement vivantes et incarnées, qui là sont comme sous cloche, désactivées, dévitalisées et exposées comme telles. Ça pourrait être froid et ça pourrait être
ça l'est un peu.
Et le film est très théorique, et en même temps, ça a un sens particulier sur le cinéma de Cronenberg, parce que la question de l'autopsie, de montrer l'intérieur, c'est vraiment la clé de toute son œuvre, c'est son obsession. Et là, on a l'impression que c'est son cinéma qui s'éventre lui-même et qui montre de quoi il est fait, et qui montre sans la chair ce que sont ses organes mêmes. Donc c'est vraiment quand même un objet passionnant. Je me demande que ça fait de découvrir le cinéma de Cronenberg avec ce film-là, parce que mon attachement au film, il tient beaucoup à mon adoration du cinéma de Cronenberg, et peut-être aussi à la connaissance de sa biographie, puisque il faut savoir que Cronenberg avait abandonné le cinéma pendant très longtemps parce que il a perdu son épouse, a lutté avec elle contre la maladie, et le film est quand même hanté par le spectre de la vieillesse et de la maladie, et que ça donne quand même une clé biographique assez poignante à ce film, qui est un objet vraiment passionnant.
Là encore, il n'a pas rencontré le public depuis sa sortie et même sa présentation à Cannes, Nicolas.
Vraiment, je pense qu'il faut avoir vu au moins un ou deux Cronenberg avant, notamment un de la première période. Puis Cronenberg, il y a vraiment trois périodes progressives et en même temps très distinctes. Et là, c'est vrai que c'est un film qui donne une synthèse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de revenir à cette exploration de la chair qui était vraiment dans ses premiers films, mais alors sans du tout le côté gore et le côté, et avec vraiment ce côté très théorique et assez froid qui arrivait à l'époque de Monde Crash existait.
C'est pas Crash, c'est le film.
Et il y a, c'est marrant parce qu'il le dit lui-même, le sous-texte est devenu le texte. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de suspense horrifique sur le discours, ou en tout cas sur le propos, parce qu'il n'y a pas de discours, ou sur l'univers. C'est carrément les personnages qui dissertent sur les problématiques du film. Et c'est assez passionnant, parce qu'en même temps, il y a toujours un univers visuel qui n'arrête pas d'évoquer beaucoup de choses, qu'il soit la catastrophe écologique, politique, la perte des valeurs. Et voir ces personnages, il y a en même temps un embrouillamini d'intrigues qu'on ne comprendra pas au final, mais en même temps, tout est clair sur ce qu'il évoque du monde. C'est-à-dire que on a le sentiment effectivement de cette catastrophe écologique, de cette catastrophe, de cette perte de valeur, c'est-à-dire que Mortensen, c'est Cronenberg, et comment je me dépêtre et je reste droit dans ce monde où les valeurs sont complètement, il y a une confusion totale des valeurs, à la fois artistiques, des valeurs commerciales, c'est-à-dire tout se mélange, le commerce, et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans où est l'art, où est l'exhibitionnisme, où suis-je moi-même Cronenberg, et c'est un film vraiment passionnant, mais il faut arriver à y rentrer, quoi.
Sophie.
Oui, bah, je suis d'accord avec tout ça, je trouve que c'est un très très beau film, c'est une fable philosophique, hein, sur à la fois sur la création et puis sur l'humanité en tant que espèce elle-même créative, et sur le corps mutant en perpétuelle conquête, en perpétuelle expérience, c'est très fort, on croit toujours, enfin il me semble que chez Cronenberg, il n'y a pas le corps d'un côté, l'esprit d'autre, le corps est un tout, c'est un corps pensant, un corps complet, un corps artiste en quelque sorte, et même christique dans le film, parce que c'est un corps qui est sacrifié, qui est transcendé aussi, et qui est rituel. Et ce que je trouve très beau, qui a peut-être pas été dit, c'est que c'est un film d'anticipation où dans un décor fané, dans un décor d'hier, dans un décor qui n'est fait que de rouille, de salpêtre, de ces étraves de bateaux rouillés, c'est magnifique, de ruines, comme si finalement l'avenir de l'humanité se faisait sur un cimetière et se nourrissait des morts et de ceux qui meurent. Alors
ça va donner envie aux gens d'y aller.
C'est décor. Oui, et en même temps. Et en même temps.
Mais c'est pas triste non plus.
Ah, c'est une belle ruine.
C'est une. Non, mais c'est consubstantiel.
Ça relève.
Mais c'est vrai que
c'est consubstantiel. Bon
éloge à tous.
C'est consubstantiel à la condition humaine.
C'est un peu courage fillon, quoi.
Mais ce qui est beau, c'est qu'il en appelle à sa relève. C'est-à-dire qu'il y a le personnage de Kristen Stewart et de Léa Seydoux. Ils ont une forme d'excitation à prendre la relève du maître. D'ailleurs, on pourrait y voir un reflet de Julia Ducournau, qui est un peu sa fille spirituelle. Il en appelle comme ça à une forme de relève et à repasser le flambeau.
Tu as assez parlé, Nicolas.
Non, j'ai rien de plus à dire, sinon que c'est une méditation avec ce que ça a de difficile, en effet, mais de passionnant et de magnifique.
Les crimes du futur de David Cronenberg, des réactions sur ce film, non. Autre film, Reparti Bredouille, je le précise quand même, mais c'était presque une prouesse, pardon pour les réalisateurs, hein, mais quand sur 21 films en compétition, 10 reçoivent un prix, c'est dur de repartir Bredouille. Mais bon.
C'est pile pas les bons. Ah. C'est pile pas les bons, c'était les autres.
Il semblerait.
Donc c'était en sélection officielle, c'était en compétition. Et ses frères et sœurs d'Arnaud Desplechin, avec Marion Cotillard, Melville Poupeau, Goldshifté Farani, Benjamin Sixou, Patrick Timsit. Le frère, c'est Louis, c'est donc Melville Poupeau, poète, opiomane, alcoolique, qui a perdu un fils. La sœur, c'est Alice Marion Cotillard, qui est actrice, qui joue au théâtre une adaptation du film qu'a tiré John Huston, de Jean de Dublin, de Joyce. Alice est son frère depuis 15 ans, depuis qu'il l'a traité de monstre impudique, mais ça ne suffit pas à expliquer la violence, l'intensité de cette haine. Ils ne se sont plus revus jusqu'au jour où la mort de leurs parents les oblige à se retrouver avec des scènes du film pareil, dure 1h50, très fortes, aussi bien à la synagogue qu'il y a une scène au supermarché, qui est, à mon avis, presque une scène d'anthologie, Jean-Marc.
Moi, c'est un film qui m'a réconcilié avec le cinéma d'Arnaud Desplechin, qui a été un cinéma extrêmement constitutif de ma cinéphilie. Mais depuis deux films, effectivement, j'avais été déçu. Je n'aimais ni Roubaix, ni Tromperie. Et là, j'ai le sentiment qu'il revient à ce qu'il sait faire de mieux. Et même s'il a déjà fait mieux, je pense que malgré tout, c'est très supérieur à ses deux précédents films. Et que le film, qui n'est pas, à mon avis, totalement réussi, notamment, je pense qu'à la fin, il y a un certain problème sur la résolution, notamment du personnage de Marion Cotillard. Il y a malgré tout des scènes magnifiques. Ce qui est très beau dans le film, c'est la manière dont, et c'est pas que dans ce film-là, mais c'est particulièrement fort ici, des sentiments qui sont la mesquinerie, la jalousie, la négativité, il en fait quelque chose d'épique, de lyrique et d'immense. Enfin, il arrive à déployer de manière symphonique des sentiments extrêmement vils, petits et mesquins. Et il réussit un véritable film d'amour, avec tous les codes du film d'amour, sur le sentiment de la haine. Et cette idée que ces personnages se haïssent, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas s'aimer, parce qu'il y a un interdit qui est celui de l'inceste sur leur amour, c'est quand même très très beau, ce secret qui plane sur ce rapport très très conflictuel.
Avec plein de référence dans son film, à ses films précédents.
Bien sûr, hein, oui, bien sûr.
Quand on a vu les films de Desplechin, qu'on les a.
Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que son cinéma aussi, dans ce film-là, ça alimente de corps nouveau, même s'il avait déjà travaillé avec Marion Cotillard. On se dit que ce personnage aurait pu être joué par Mathieu Amalric, qui a 10 ans, le personnage féminin par Emmanuel De Vos, et je trouve que, à la fois, c'est vraiment un directeur d'acteurs immense, c'est-à-dire que Poupeau et Cotillard sont prodigieux, et que ça bénéficie aussi à son cinéma de se régénérer avec des corps nouveaux.
Pierrot.
Eh ben moi je trouve qu'il est très en forme, Arnaud Desplechin, parce que moi, contrairement à toi, j'avais beaucoup aimé Tromperie. Je trouve ça absolument magnifique.
Et là, c'était formidable.
C'est formidable.
L'adaptation de Philippe Roche, je le rappelle.
Ah oui, c'est formidable, mais celui-là est au moins aussi beau, enfin différent, mais très beau. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a son côté un peu Rougon-Macquart, c'est-à-dire que il prend une famille en quelque sorte, comme ça. Ouais. Il parsème tous ses films comme ça. Il en fait des variations sur des thèmes comme ça qui reviennent. Par exemple, évidemment, on avait déjà vu une sœur qui bannissait son frère dans un conte de Noël. Et il prend cet épisode-là, il en fait un film, et il en fait un film absolument splendide, et surtout un film de rage, un film en colère. À un moment donné, le Melville Poupeau dit à son neveu, mais ne sois pas tiède, les gentils sont tièdes, il faut être en révolte, il faut être en rage. Et c'est ça que le film est, c'est un film furieux, en quelque sorte. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'explique pas. Bien sûr qu'on peut échafauder plein de pistes sur la haine qui lie Marion Cotillard, mais voilà. Et puis, Marion Marion Cotillard, je la trouve absolument formidable. Il y a une scène. Alors tu vas me dire que c'est parce que je me suis reconnu, mais non, je ne me suis pas reconnu.
Laquelle?
La
journaliste. Supermarché, non? Non,
le journaliste. Le journaliste. La scène du journaliste où il pose une question.
Il faut la raconter parce que sinon.
Oui, oui. Il pose une question sur la vie privée là, et elle lui dit absolument. Et elle est sublime à ce moment-là. Elle me dit comme vous êtes amoureux de votre question. Et elle s'en va. Et c'est, sublime. Mais tout le film est absolument, je suis d'accord, la fin est peut-être un peu moins bien, mais tout le reste, c'est tellement beau qu'il faut
être. Il arrive parfois aussi aux critiques du masque d'être amoureux de leurs propos, hein. Ça peut arriver. Sophie.
Ben, moi, ça me navre, mais je n'ai pas aimé le film. J'entends tout ce que vous dites, je trouve que vous avez raison d'une certaine manière, et moi, il me semble que le fait de ne pas savoir d'où vient cette haine est un vrai problème dans le film. Dieu sait que j'aime les secrets, qu'on en dit toujours trop au cinéma, qu'on en montre toujours trop et que je suis pour les ellipses, etc. Mais là, il pose sa haine comme une haine biblique. En effet, Jean-Marc, tu as parlé de cette dimension qu'il déployait à partir de choses mesquines. Et moi, je trouve qu'il n'y arrive pas, justement. Il la pose, c'est un postulat, mais elle en est abstraite. Et cette haine étant abstraite, elle en devient dérisoire, en tout cas pour moi. Il me semble qu'il compte trop sur le récit, sur les replis de son récit, sur les couches, effectivement, de son récit. Il s'en remet à ça et ça l'exonère de donner la raison. Mais moi, je trouve que la raison manque pour la bonne raison qu'on se retrouve face à une injustice faite au personnage en quelque sorte à cause de ça. Lui, le frère, joué magnifiquement, je suis d'accord, par Melville Poupeau, est un personnage qui a toute notre empathie parce que en plus de ça, il est rongé par la mort de son fils. On peut le dire. Et il souffre à cause de ça. Mais elle a rien. Elle est rongée que par sa haine. Et si on ne sait pas d'où vient sa haine, eh bien c'est un personnage.
C'est ça qui est dérisoire.
Eh bien moi, ça ne marche pas. Du coup, le personnage, il est défavorisé. Alors il la filme comme une actrice des années 50 avec son grand manteau, etc.
Comme une star de cinéma,
comme une star de cinéma. Je suis d'accord. Mais elle est vide et elle n'est pas seulement dévitalisée. Ça pourrait être intéressant. Je trouve qu'elle est inintéressante. Et moi, la scène dont tu parles, moi, je l'aime pas, cette scène. De t'amoureux de votre propos, oui, bon, c'est une réplique, oui. Je trouve pas ça formidable. Je trouve que ça marche pas. Et chez Desplechin, il y a toujours des choses qui vont pas, mais le film les absorbe. Et ça devient magnifique, en général. Et ben là, je trouve qu'il fait trop confiance à son savoir-faire. Et ça marche pas. Je trouve le film très content de lui. Et un peu aigre, en plus. Voilà. Désolé. Et j'en suis navré.
Moi, je suis vraiment au croisement. Effectivement, je suis assez d'accord avec ce que dit avec Sophie. C'est-à-dire qu'en même temps, le film commence de manière très directe. Les deux premières scènes sont d'un mélo presque exagéré, presque étonnant chez Desplechin. On se dit tiens, c'est Desplechin, va y aller, quoi. Il y va et tout ça. Et après, le film est sans cesse dans l'évitement. C'est-à-dire qu'il passe son temps justement à éviter les raisons des choses, à éviter les scènes attendues. Et comme si déjà chez Desplechin, il y a cette idée que de toute manière, on ne peut être heureux entre frères et sœurs et on ne peut s'aimer que dans l'enfance. Une espèce de nostalgie de l'enfance, avec toujours ce côté incestueux qui est sous-jacent, qui est un peu étrange, et comme si tout était plombé dès l'âge adulte. Alors c'est intéressant, et en même temps je trouve que dans ce film parfois c'est assez roublard, et en même temps il y a plein de choses passionnantes, c'est-à-dire que comme toujours avec lui c'est très expérimentateur, ça joue beaucoup à la fois avec le spectateur, et ce qui est de plus en plus rare en cinéma français, c'est-à-dire que vraiment voilà, il commence des scènes puis il les arrête avant. Il y a toujours son obsession du judaïsme, moi qui me fascine.
Là, à travers le personnage de Tim Cite, il est flagrant, hein.
Et à travers le personnage de Tim Cite, je trouve que ça prend une dimension vraiment. Tim Cite est formidable,
joue le psy.
Est formidable. Donc il y a comme ça un mélange de choses où je suis vraiment assez partagé. La seule chose dont on est sûr, c'est que chez Desplechin, s'aimer et se haïr sont à peu près équivalents. Et au bout d'un moment, moi, j'ai l'impression que ça finit par tourner un peu en rond et j'aimerais peut-être qu'il
Bergman ou
frère. Ah non, mais oui, non mais
Bergman aussi, ça tourne en rond.
On a encore deux films à évoquer, frères et sœurs d'Arnaud Desplechin. Dans la section, c'est Cannes première. Il y avait Don Juan de Serge Bozon. Drame chanté avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort, Jenny Bette. En 2022, Don Juan n'est donc plus l'homme qui séduit toutes les femmes. C'est un comédien séducteur qui répète Don Juan, celui de Molière, et est obsédé par une seule femme, celle qu'il a abandonnée le jour de son mariage. Et c'est Virginie Efira qui réapparaît pour lui donner la réplique sur scène avec Alain Chamfort. Impeccable en version moderne de la statue du commandeur. Une variation, selon mon ami Nicolas, de Don Juan post-MeToo, mi-chanté, mi-raté. J'aime bien aimer la formule.
Qui est pas très juste d'ailleurs, parce qu'en fait, même quand il chante, c'est souvent là que c'est plus raté. Moi, j'ai été très excité par le projet, c'est-à-dire que vraiment cette idée de revisiter Don Juan à travers une dimension de comédie musicale, mais en même temps sans ballet sans danse, avec une idée de, aussi de faire chanter les acteurs presque en direct sur le plateau, avec leur, sans les faire doubler, tout ça. Je dois avouer que je suis complètement, que je suis assez tombé de haut en voyant le film. Je trouve qu'il y a vraiment un problème avec Tahar Rahim, qui, d'un pur point de vue de chant, c'est-à-dire que vraiment tout de suite dès qu'il chante, moi, il me sort du film.
C'est pas Pavarotti.
Il y a un vrai problème. Je pense qu'il y a, j'arrive pas à savoir ce que me raconte le film. Je pense qu'il y a un projet, je pense, peut-être dans le scénario, et c'est pour ça que je parlais de film post-Me Too, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de déconstruire le personnage de Don Juan et de montrer un personnage de Don Juan justement qui doute, qui finalement, et c'est ce doute qui devient toxique alors qu'il n'est pas du tout sûr de lui, et du coup, et ça c'est plutôt intéressant. Sauf que j'ai l'impression que ce que filme Boson, c'est autre chose, et je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que je trouve qu'il est tout le temps à distance de ses scènes, et dès qu'arrive effectivement Alain Chamfort ou Virginie Efira dans la deuxième partie, quand elle est vraiment elle et quand elle n'est pas vue à travers d'autres personnages, parce qu'en fait il voit Virginie Efira et son ex-femme à travers toutes les personnages féminins qu'il rencontre, ça c'est vraiment raté. Et quand elle arrive vraiment dans la deuxième partie du film, là il y a quelque chose de plus incarné, de plus honnête, de plus...
Je t'interromps parce qu'on n'aura pas le temps. Film qu'adore les Arocs, Jean-Marc.
Adoré, c'est beaucoup dire. Non, mais c'est un film que je trouve très intéressant.
Très élogieux.
Vraiment très intéressant. Ce qu'il raconte, effectivement, il y a quelque chose d'un peu mystérieux, comme toujours dans le cinéma de Serge Boson. On ne sait jamais très clairement où ils vont en venir. Là, le sujet, le sujet du film, c'est l'hétérosexualité, pour aller vite. C'est le mal que se font les hommes et les femmes, et le poids que c'est de souffrir et de faire souffrir, qui sont deux poids équivalents. Et le film est assez troublant parce que c'est le récit d'un renoncement, enfin d'une sorte de désintoxication amoureuse, puisque le personnage va renoncer à la séduction pour cesser à la fois de souffrir et de faire souffrir. Mais au-delà de ce que le film raconte, ce qui est beau, il est beau comme geste de cinéma. C'est-à-dire que je pense qu'en termes de mise en scène, moi je trouve que la dimension de comédie musicale, elle est essentiellement dans le filmage et dans la mise en scène. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus musical que le découpage, selon Serge Boson. Et je trouve que la manière dont il raccorde deux plans entre le rythme des plans, c'est ça qui fait la qualité de comédie musicale du film, et que c'est vraiment un grand film de metteur en scène.
C'est totalement figé pour moi. Il y a des plans totalement figés, totalement. Il y a pas de travail de montage.
Moi, je suis pas entré du tout là-dedans. Je vois pas de mise en scène musicale. Je trouve que c'est... Non, mais c'est-à-dire qu'on a tout fait. Don Juan, on a fait évidemment un séducteur, on a fait un provocateur, on a fait un impuissant, on a fait un gay refoulé. Là, on en fait un crétin, et pourquoi pas? Non, mais c'est très bien, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Et je pense que le scénario d'Axel Repère et de Boson, c'est ça, c'est de prendre...
C'est un crétin, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir.
Une coquille vide.
C'est un donjon qui essaie de guérir.
Oui, il y a rien, mais parce qu'après, il continue à vouloir séduire, donc il continue à vouloir jouer, donc il y a tout ça
absolument
inabouti. Donc, ça n'a absolument aucun intérêt, c'est le vide. Et alors, esthétiquement, c'est très, très beau, mais chic. Ça m'a rappelé absolument Vadim. C'est le niveau de Vadim. Vadim, d'ailleurs, qui avait fait en 72 un film sur Don Juan, avec Brigitte Bardot, qui s'appelait Ici Don Juan. Qui est un vrai navet.
Et Vadim est un styliste vraiment très inférieur.
Celui-là est pas loin du navet de Et Don Juan était une femme. Celui-là pourrait s'appeler Si Don Juan était un con. Eh ben, voilà, ben non.
Sophie, quelques mots.
Pierre, tu es très drôle, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est plutôt un très joli film. Audacieux, certes spécial, c'est vrai, qui frôle le ridicule parfois sans jamais y tomber. Je trouve que c'est un film surtout sur la similitude qu'il y a entre un couple, ce qui fait qu'un couple et ce qui fait un duo d'acteurs. Et au fond, aimer jouer, c'est pareil. Et c'est un film qui fait sans arrêt le lien comme ça entre la vie et la scène. C'est pas pour rien qu'on parle de partenaire dans les deux cas. C'est l'amour et le jeu, c'est du même ordre. Et c'est un film qui dit beaucoup ça avec beaucoup de finesse. Je trouve que les acteurs sont somptueux. Ils s'en sortent alors que c'est pas simple, c'est une partition très difficile, et voilà, je trouve que c'est un joli film.
C'est bien, t'as essayé de le défendre. Don Juan de Serge Boson, poignée de minutes pour évoquer un dernier film, et qui n'était pas lui en compétition officielle, c'est compétition officielle des Argentins Mariano Cohn et Gaston Duprat, auquel on doit notamment, selon moi en tout cas, l'excellent Citoyen d'honneur. Et là, c'est avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, un homme d'affaires milliardaire, qui décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'histoire et qui engage les meilleurs. La célèbre cinéaste avant-gardiste Lola Cuevas, qui est jouée par Penélope Cruz. La star hollywoodienne Félix Rivero, c'est Banderas. Et le comédien de théâtre radical Ivan Torres, qui est joué par Oscar Martinez. Et évidemment, vous devinez que le tournage va vite déraper. Pierrot ?
C'est, mais moi j'aimais beaucoup en effet Citoyen d'honneur qui était vraiment
qui était très très bien,
qui était très très bien. Et là on comprend ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu faire, ils ont voulu faire un dispositif comme ça avec des très théâtral où on voit sur des répétitions, pas très bien. Ça marche pas parce que elle, on voit très vite que c'est une réalisatrice extrêmement prétentieuse. Banderas qui joue le soi-disant superficiel, bah il est très bien hein, d'ailleurs, mais le personnage n'est pas intéressant. Et l'acteur de théâtre, un télo, est aussi con que les autres. Donc, évidemment, c'est un peu pénible de les voir. Alors, il y a une scène, parce que malgré tout, il y a deux, trois moments réussis, c'est quand elle oblige la réalisatrice, donc Penélope Cruz, elle attache sous un prétexte ces deux acteurs dans la salle, et elle les a obligés de rapporter une partie de leur récompense nombreuse.
Tu vas pas le dire.
Et, hein, bah non, c'est un des gags, alors il y en a. Et puis, il se passe avec ses récompenses nombreuses, dont les siennes, quelque chose d'assez affreux. Bon, là, on sourit un peu.
On va arriver.
Mais voilà, c'est pas très
Pierre, cette semaine, presse dithyrambique sur des pages entières dans la presse. Ah oui, des papiers absolument incroyables. Quelques mots, Nicolas ?
Ah bah non, mais c'est très raté. C'est-à-dire que je pense que sur le papier, il y avait un scénario assez amusant, assez sur vraiment sur une sorte de satire du tout à l'ego des acteurs. Et là, il y a un vrai problème de mise en scène. C'est complètement figé. Il y a pas. En plus, on sent qu'ils cherchent un humour à la Ruben Östlund. Tiens, pour revenir à notre ami qui a eu la Palme d'Or, que comme ça quelque chose de la fois qui relève de l'installation théâtrale et une distance un peu pince sans rire par rapport à ces personnages qui sont effectivement très monocordes. Et tout ça s'épuise très vite parce qu'il y a un vrai problème de rythme, de tempo. C'est pour moi, il y a un énorme problème de mise en scène et le potentiel un peu satirique et un peu piquant du film est totalement annihilé par la platitude de sa mise en scène. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt, quoi.
Sophie.
Moi, j'aimais beaucoup aussi les films précédents de ce duo de réalisateurs. Là, je trouve que c'est un film qui est à la fois très brillant et très vain. C'est vrai. C'est un jeu rutilant de stéréotypes, finalement. Et moi, ça m'a fait penser à cette phrase de Minelli qui dit à un film, ça doit être comme un collier. Il faut qu'il y ait des perles, il faut qu'il y ait un fil. Et là, on a l'impression qu'on a que des perles.
C'est Minelli qui disait ça.
Ils se sont creusés la tête pour chaque fois essayer de trouver des, mais il n'y a que des reliefs, il n'y a que des perles. Et c'est des perles qui sont pas toujours réussies, même s'ils se creusent la tête pour que ce soit à chaque fois inventif, mais rien à l'insu du film ne se passe, rien à l'insu, la dimension, la profondeur humaine, ce qui devrait sourdre du film, ce qui se fait à l'insu d'un film quand il se déroule, la narration, la trame, tout ce qu'on veut, l'ombre, etc., n'existe pas. C'est un peu comme chez Sorrentino, c'est en vitrine, c'est très beau, mais c'est vain. Moi, je trouve que leur film précédent était féroce, mais il y avait une humanité, il y avait quelque chose de fort, de profondeur humaine, et ici, on est à la surface en permanence, donc c'est vain.
Jean-Marc.
J'ai pas grand chose à rajouter, je trouve ça vraiment très faible. C'est un problème de faire de la satire quand on est dans une telle fossée sociologique. C'est-à-dire que ce cinéaste, joué par Penélope Cruz, indépendamment du talent et du charme de Penélope Cruz, n'existe pas. C'est-à-dire que une cinéaste qui a son statut n'est pas habillée comme ça, ne parle pas comme ça, n'a pas cet univers-là, tout est faux. On a l'impression qu'en termes d'observation... Ah vraiment ?
C'est ça qui est acheté.
Ah vraiment, oui. C'est-à-dire que l'équivalent, c'est-à-dire que Julia Ducournau, qui a eu la Palme d'Or l'an dernier, n'est pas habillée comme est habillée Penélope Cruz.
C'est-à-dire
ultra bling, c'est limite Kim Kardashian. Enfin, ça, vraiment, ça ne va pas du tout. Tous les paramètres d'observation satirique sont dérégulés.
Et
le film est faux et ses coups de griffe sont totalement dans le vide.
C'est donc compétition officielle, ou ce qu'il en reste, et c'est signé Mariano Cohn et Gaston Duprat. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film-là ? Non ? Eh ben, on a le temps de passer à vos conseils, films, DVD, restaurant. Oui, tu veux un restaurant, si tu veux,
non,
plage.
Je vais présenter le film.
Et on commence tranquillement avec ce film.
Eh ben, deux films, si c'est possible. Ouais. Un qui est déjà sorti, La Ruche, qui est un film kosovar. Ah oui, de Blerta Bacholi, qui est sur un portrait de femme, d'une femme qui existe vraiment, c'est un portrait de mère courage, qui, quelques années après la guerre du Kosovo, il est beau, enfin, elle attend toujours son mari, comme toutes les femmes du village qui sont veuves, mais qui attendent que reviennent les dépouilles de leurs hommes, et elle essaie de s'en sortir, et elle essaie de créer une société d'avjar, c'est-à-dire de poivrons rouges qu'elle met en pot et qu'elle vend au supermarché du coin.
Dont elle fait un grand succès, d'ailleurs.
Et ça marche très bien. Et en fait, mais
c'est pas pas facile à digérer. Mais
C'est pas l'idée de saluer un parcours hollywoodien exemplaire. Le film est bien au-delà de ça. C'est vraiment un film sur le. Elle a du mal avec le village qui est le patriarcat. On l'empêche de s'émanciper, etc. Et le deuxième film que je voudrais, et le film est très beau. Et le deuxième film que j'aime beaucoup et qui sort dans 3 jours, c'est Petite Fleur. Je ne sais pas si vous en parlerez.
On va en parler dans le prochain Massacre.
Alors voilà, je me contente de dire que c'est un film de Santiago Mitre avec Melville Poupeau qui est extraordinaire dans le film.
Mais tous, ils sont tous très bien.
Et le film est d'une malice.
Vima Laponce qui est merveilleuse.
Vima Laponce, c'est formidable.
Mais on en parlera. Donc,
voilà, alors je dis pas autre chose que ça, c'est vraiment une merveille.
J'espère qu'ils en diront du bien. Nicolas, ton conseil.
Alors moi, les deux meilleures raisons d'aller au cinéma cette semaine. Il y a la ressortie de deux des plus grands films de l'histoire du cinéma et en même temps, on ne peut pas trouver plus opposés. D'un côté, vous avez Chantons sous la pluie qui ressort en 4K, restauré. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous partez tout de suite. Et à côté de ça, ressort également, je crois, restauré, Salo et les 120 journées de Sodome de Pasolini, qui est absolument l'opposé total. Le film.
Allez-y en famille.
Donc là, pour le coup,
parents,
courez-y tout de suite.
Enfants.
Donc selon l'humeur, donc un des films les plus dérangeants toujours aujourd'hui et les plus fascinants. Après, je vais pas. Voilà, il y a eu.
On va
pas le décrire. Commencez par Salo, puis après, enchaîner sur Chantons sous la pluie.
Et moi, je vous conseille un tout petit livre, mais qui est absolument délectable, émouvant, sur celle dont on va célébrer en août le 60e anniversaire de la disparition. C'est Marilyn, Ombre et Lumière, du poète américain Norman Rosten, chez Segers. Rosten, qui était l'ami très attentionné de Marilyn pendant les 7 dernières années de sa vie. Et ils ont échangé des poèmes, parce qu'ils en écrivaient l'un et l'autre, évidemment. Ils se sont promis de se prévenir s'ils avaient l'envie d'en finir un jour. Elle lui a confié sa souffrance de ne pouvoir être mère, mais aussi des recettes de bouillabaisse, et des conseils de lecture. Trop de choses se passaient en elle, écrit très joliment Norman Rosten, et aussi toute beauté et mystère. Et c'est donc chez Segers, Marilyn, Ombre et Lumière de Norman Rosten. Le conseil de Jean-Marc.
Moi, j'ajouterais un titre à la liste de Nicolas des plus beaux films du monde. C'est La maman et la putain, ouais, de Jean Eustache.
Absolument.
Voilà, qui revient mercredi prochain à salle. Alors,
qui lui était invisible.
Exactement. Il est passé sur Arte il y a 10 ans. Il était passé sur France Télévisions il y a 25 ans. Il y avait des VHS à l'époque qui circulaient. C'est un film très difficile à voir. Pour des raisons assez obscures et complexes de droit qui ont enfin été démêlées. Et donc, on va pouvoir revoir le film en salle. Il a été montré à Cannes,
et
provoqué une émotion extrêmement vive. Donc, c'est une histoire d'amour à trois absolument bouleversante.
Avec Jean-Pierre
Léo, Bernadette Lafont, Françoise Lebrun. C'est le portrait vraiment d'une époque, de la jeunesse post-68. C'est un magnifique documentaire sur Paris, en noir et blanc, avec une image, un grain totalement, une image de Pierre Lhomme sublime. Voilà, c'est vraiment un des plus grands films du cinéma français.
Le conseil pour finir de Pierre ?
C'est un choix plus modeste par rapport à tout ça. C'est un premier film grec qui s'appelle Broadway, de Christos Massalas. Ça se passe à Athènes, qui va pas très 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 bien, et dans un centre culturel complètement désaffecté vivent un groupe de pickpockets et qui recueille un type qui est obligé de se cacher parce qu'il est poursuivi, et pour comme seule solution, il danse et il se déguise en femme. Et donc, à partir de là, il y a une sorte d'univers très Almodovar, un petit peu Benex. Alors, il faudrait savoir si ça, après ce premier film, il va tomber du côté d'Almodovar ou de Benex. Je dis ça parce que la musique, en plus, est formidable et elle est signée Gabriel Yared, qui est une des plus belles musiques que j'ai entendues depuis longtemps. Voilà. Donc, Broadway de Christos Massalas.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site de franceinter.fr. Merci beaucoup, Sophie Avon, Nicolas Chalère, Pierre Murat, Jean-Marc Lalanne, pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. Et ce soir, à la technique, il y avait au théâtre de l'Alliance Française, et je les remercie, Patrick Muller, Philippe Thibault, ainsi que Julien Bourdet, à la régie Jean-Yves Masson, et à la réalisation, bien sûr, l'indispensable Xavier Pestugia. Attention, à l'occasion du festival Mot pour Mot, le prochain enregistrement du Masque et la Plume aura lieu le samedi 11 juin à partir de 15h dans le grand hall de la Villette au 211 avenue Jean Jaurès dans le 19e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera donc de littérature et du festival Mot pour Mot. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.